les juristes. Ces derniers, dans leurs cercles et dans leurs écoles, avaient développé et conservé en bon ordre toute une panoplie technique faite des formulaires capables de réduire la complexité de n'importe quel conflit singulier en alternatives élémentaires, susceptibles d'être résolues en termes de raison ou de tort. Qui a raison et qui a tort dans le très difficile conflit entre Aulus Agerius, celui qui recourt en justice, et Numerius Nigidius, celui qui nie qu'il doit de l'argent, le conflit entre sujets propriétaires devait par conséquent être transformé en une alternative simple, y compris pour les non-juristes, non seulement afin de les soumettre au iuvex, au juge, du cas d'espèce, mais pour les rendre également reproductibles dans des éventuels cas semblables. Les droits occidentaux naissent ainsi comme un jeu à somme zéro, qui écarte les données factuelles considérées comme non reproductibles, et donc de peu d'importance, et pour lequel les raisons d'un propriétaire ne s'étendent que jusqu'à celles du propriétaire qui est l'antagoniste, et qui nie précisément son pouvoir. Celui qui va au-delà des limites de sa propre raison et qui passe outre les frontières de son propre droit, se met du côté du tort, qui est précisément l'opposé du droit. Le droit chemin s'oppose ici au chemin tordu, la raison au tort juridique. Dans ce cadre institutionnel, appelé à devenir plus tard un cadre conceptuel, qui se développe le droit occidental. Il y a à ses racines une conception qui s'ancre dans les exigences de l'individu propriétaire, pris dans les relations conflictuelles à somme zéro, qu'il entretient avec une contrepart processuelle. L'établissement du corpus iuris civilis de Justinien, dans le 5e siècle après Jésus, sert d'épilogue à une histoire juridique qui dure en réalité depuis 1000 ans et donne à l'Occident ses textes juridiques fondamentaux. Un modèle très rassemblant, fondé, bien que de manière moins envahissant, sur les mêmes éléments de provenance romain, a été formalisé et conservé jusqu'à nos jours par la jurisprudence des autres cours de la tradition anglo-américaine. Les cours du Common Law, centralisés en Angleterre à partir du IIe siècle, se sont à leur tour développés pour dénouer les conflits entre les grands propriétaires fonciers, les barons, qui, Guillaume le Conquérant, avait fait bénéficier des droits dominicaux de nature flexible, féodale. Là aussi, les juristes de profession ont joué un rôle très semblable à celui de leurs ancêtres romains. Ils ont préparé la formule de l'alternative élémentaire qui l'ont soumis encore aujourd'hui au jury populaire laïque, l'équivalent contemporain des iudex, des juges. Dans ce cadre théorique et institutionnel, la place occupée par les biens communs est absolument marginale. En effet, ce qui n'est pas inclus dans la propriété privée peut soit appartenir à la res publica, l'État, grand absente de l'expérience médiévale continentale, soit être au contraire res nullius, chose de personne, et en tant que telle, librement appropriable par tout un chacun. Les concepts de res communis omnium, de la chose commune de tout le monde, de tous, une chose ni privée ni étatique, et pourtant non absente, est très largement sous-théorisée dans la tradition occidentale. Très probablement parce que, depuis toujours, l'occupation du commun de la part du plus fort, est l'un des instruments les plus fréquemment utilisés d'accroissement de la propriété privée. Il en résulte que la sous-théorisation de la différence entre ceux qui appartiennent directement à tous, sans la médiation de l'État, et ceux qui n'appartiennent à personne, finit par correspondre aux intérêts des classes propriétaires, qui contrôlent par ailleurs le droit. Une classe intéressée à élargir ses propres possibilités d'occupation des terres, à travers la confusion entre les deux concepts. Encore aujourd'hui, la chose est aisément aisément vérifiable. L'idéologie dominante est produite par l'intérêt exclusif des classes propriétaires. Le grand problème qui existe à ce point, et qui sera évidemment à poser entre nous, c'est s'il y a la possibilité, dans le travail juridique, de sortir de ce problème. Ce n'est pas que le droit en soi est lié définitivement à la division entre privé et public. Donc, on peut donc dire que les biens communs payent pour une sorte d'incompatibilité archéologique et structurelle avec les aspects les plus profonds de la juridicité occidentale, fondée sur la combinaison universalisante et exhaustive entre la propriété privée et la propriété d'État, et lue récemment sous la rhétorique des droits individuels. Deuxième observation. Le droit romain est repris et requalifié après une longue parenthèse médiévale en fonction des nécessités du capitalisme naissant. De ce point de vue juridique, c'est Grotius au XVIIe siècle en Hollande qui interprète l'accumulation primitive de manière quasi définitive. L'accumulation primitive capitaliste, c'est-à-dire la clôture des espaces communs et l'esclavage ou la prolétarisation des gens qui en sortaient. Dans le chapitre 2 du livre 2 de Iure Belli Ac Pacis, le droit de la guerre et de la paix, et dans le chapitre 5 du Mare Liberum, le mer libre, deuxième partie de Iure Praede, Grotius effectue le passage de la communio prima eva, guillemets, dans laquelle les êtres humains utilisaient les biens en commun, poussés par un appetitus societatis, un besoin, un désir de société, non pas égoïste, mais au contraire harmonieux et pacifique. Terminer les guillemets. À une appropriation individuelle des terres communes et donc à la formation des concepts de propriété comme législation, comme légalisation de l'occupation, c'est-à-dire de la prise en possession. Qu'est-ce que c'est qui pousse de la prima Eva, de la première ancienne âge de la communauté à cette nouvelle situation? Ce qui pousse, c'est simplement la croissante complexité des besoins vitaux, selon Grotius, et l'ambition. Donc, tous ceux qui sont les mouvements forts économiques de l'accumulation sont rejetés, non, sur ceux qui sont des caractéristiques universelles humaines, et le passage à la phase d'accumulation primitive est vu comme un phénomène ancien qui arrive, qui se lie directement à la primeva accumulation, communion des biens. Grotius prévoit quatre modes d'appropriation, et qui sont les mêmes qu'on trouve chez Marx, hein, dans le chapitre sur l'accumulation primitive. Usage direct de la violence de la part du propriétaire, accord formel mais en général forcé de tous ceux qui avaient l'usufruit du common field, c'est-à-dire de la terre commune, permission royale spéciale dont on a des traces encore sous le règne des Tudor en Angleterre, acquisition par un seul propriétaire de la terre de tous les autres usufruitaires. Troisième point. Les transformations de la propriété dans le capitalisme et donc le concept de commun devant ces transformations. La propriété privée moderne est née avec une référence précise à la fois subjective, l'individu, et objective, le bien matériel, c'est-à-dire avant toute chose, la terre. Mais elle se transforme radicalement au fur et à mesure que la grande corporation, la grande industrie, entreprise contemporaine, moderne, remplace l'individu en tant que sujet propriétaire et que les biens appropriables se dématérialisent images, informations, instruments financiers complexes, idées innovatrices. Tout cela se substitue à la Terre comme paradigme, en fonction duquel le droit de propriété est contraint à se définir. Il ne s'agit pas de développements récents, mais il est évident que le contexte actuel de la mondialisation capitaliste a fait passer à tout cela une seuil qualitativement décisive. Au-delà de ce seuil, la propriété privée recommence paradoxalement à se présenter comme aux origines de la modernité, structurellement entrelacée avec les dynamiques de l'accumulation. Donc, les choses qui nous racontaient déjà Grotius, qu'aujourd'hui on retrouve, l'appropriation, etc. Aux dépenses d'énormes multitudes d'hommes et de femmes, à travers l'usage des vieilles et nouvelles clôtures, véritables enclosures, aussi bien matérielles qu'immatérielles. Quatrième point, la nouvelle production du commun. La nouvelle production du commun, tout autant que sa conquête, est rendue possible en arrachant précisément le commun à la relation spéculaire qui liait jusqu'à présent ensemble le public et le privé. C'est-à-dire en le comprenant comme la base matérielle d'une existence associative finalement libérée de l'exploitation. C'est là que s'ouvre à l'évidence un terrain extraordinaire pour la recherche théorique et l'expérimentation politique, et où peut-être, je le répète trois fois, le travail du juriste peut devenir fondamental. Non seulement du point de vue critique, mais également dans les termes positifs de l'invention de nouveaux droits ou d'une nouvelle matière du commun. Et ici, il faudrait ajouter quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire que des formes de droits du commun ont existé surtout en Amérique latine, dans les pays asiatiques, en Chine, et ils se sont mêlés et structurés dans le nouveau horizon juridique. Et donc, dans le monde postcolonial dans lequel nous sommes en train de commencer à vivre, la reconstruction des archives juridiques non occidentales pourra peut-être en particulier se révéler précieuse. Il faudra cependant y chercher moins des modèles confectionnés que des expériences et des suggestions. Il s'agira, au contraire, de faire résonner dans notre propre présent global. Je pense en particulier aux constitutions nouvelles dans les pays de l'Amérique latine, surtout dans les pays andines, et qui sont extrêmement intéressants de ce point de vue, en remontant, si vous voulez, à une autre courante extrêmement minoritaire, qui était celle de la scolastique qui essayait, du XVIIe siècle en Espagne, qui essayait de maintenir un concept de commun et de le défendre. Cinquième annotation. Sur ce terrain, de nombreux juristes ont déjà commencé à travailler. Je ne sais pas avec quel résultat. Bien que souvent de manière encore ambiguë. Cela concerne en particulier tous les juristes qui s'occupent de l'organisation juridique des réseaux. Plus généralement, ceux qui ont affronté ce thème avec la force la plus grande, non seulement techniquement, mais du point de vue constitutionnel, c'est-à-dire la constitution de l'objet même, sont les jurys post-lumaniennes, avec lesquels peut-être on aura la possibilité de nous rencontrer. Il faut encore aller plus loin. Quand on rentre à l'intérieur de la structure du droit contemporain, la frontière, les frontières du conflit à somme zéro, c'est-à-dire les frontières de la science juridique traditionnelle, entre le public et le privé, ne laisse encore, pour l'instant, aucune place à un troisième pôle, au pôle du commun. Cette rigidité, ce réductionnisme de l'analyse des pratiques sont en réalité le produit d'une structure qui est commune. Voilà. Qui est commune à la fois à la propriété, le marché, et à la souveraineté, l'État. La concentration du pouvoir. Les structures privées, propriété privée, société par action, etc., concentrent le pouvoir de décision et d'exclusion sur un seul sujet, le titulaire, ou bien dans le cadre d'une hiérarchie, l'administration déléguée, l'administrateur délégué, l'administration. De la même manière, la structure publique, la bureaucratie, concentre le pouvoir au sommet d'une hiérarchie souveraine symbolisée par l'exclusion de tout autre sujet décisionnel dans une sphère de juridiction donnée. C'est le modèle de la souveraineté territoriale et des articulations politico-administratives traditionnelles. Voilà en quoi consiste le problème central, donc. Reconnaître le commun comme un autre degré radicalement antagoniste face à la déclinaison, par l'instant exhaustive, du rapport public-privé ou État-marché. Les communs, bien au contraire, refusent la concentration du pouvoir et tendent plutôt à sa diffusion. Ils prennent comme modèle un écosystème, c'est-à-dire une communauté d'individus ou des groupes sociaux liés entre eux par une structure en réseau. Et plus généralement, il repousse la hiérarchisation et la compétitivité produite par la logique de cette hiérarchisation au profit d'un modèle collaboratif et participatif qui n'attribue jamais le pouvoir à un parti spécifique parmi d'autres appartenant au même tout, mais qui prend pour repère central l'intérêt même de ce tout. Il est par conséquent essentiel de comprendre à quel point le fait de proposer qu'une entité, par exemple l'eau ou l'université, comme il y a des luttes qui courent sur ce terrain, soit considérée comme bien commun du point de vue de son gouvernement représente un virage de 180 degrés par rapport au trend en apparence impossible d'arrêter de la privatisation. Cela ne signifie pas que cette perspective soit limitée en retour à la gestion politique, publique, bureaucratique, autoritaire et souvent corrompue. Le chemin à parcourir semble plutôt celui de l'institutionnalisation d'un gouvernement participé, coopératif et susceptible d'impliquer de manière directe, avec des instruments nouveaux, les nouvelles communautés d'usagers et de travailleurs. 6. De cela dérive un dernier élément de discussion. Même quand les juristes cherchent à donner une définition positive du commun, en se référant par exemple à des biens ou à des mondes constitués, à nouveau terre, eau, air, mais aussi monde biologique, monde informatique, etc., ils n'y réussissent pas à s'en saisir s'ils n'épousent pas immédiatement le problème politique d'une action de constitution continue. De ce même commun, plus exactement, de sa gouvernance, plus exactement encore, du gouvernement démocratique du commun. Il faut de fait réfléchir attentivement à l'étrange condition dans laquelle on se représente de soi-disant nature par rapport à la définition du commun. En ayant bien en tête que, quand on s'occupe des mondes constitués, on ne peut pas désinvestir la nature, c'est-à-dire la libérer de cet investissement massif qu'elle a subi et souvent de manière autonome reproduit, comme s'il était possible de désarticuler le monde vécu et de le séparer de ces pratiques sociales qui ont transformé la nature elle-même, qui ont vu la nature réagir positivement, par exemple certaines figures nouvelles de la sexualité, certains affects transformateurs du féminisme, certains nouveaux usages liés au progrès de la médecine et des technobiologies, la jouissance de l'appareil de welfare solide, etc., etc., qui devront tout amener à réqualifier le concept même de ce que nous entendons par nature. Dans les zones de frontières entre le social et le naturel, dans ces régions où, plus que partout ailleurs, le monde vécu s'agence avec le monde naturel, il s'agira alors de réagir et d'agir. L'hypothèse d'un retour à la nature, donc, produit une conception naturaliste du bien commun, n'est pas alternative au capitalisme. Elle en découle bien plus tôt et lui est symétrique, parce qu'elle ont en commun une domestication, le capitalisme, et cette idée du retour de la nature, une domestication intégrale ont en commun, une domestication intégrale de la nature. On y revient, ici comme ailleurs, revient au problème de la production. Comment ferons-nous pour inventer des valeurs et à organiser une force qui permette de déraciner la production hors du développement capitaliste? Mais aussi, comment ferons-nous pour l'arracher à toutes les utopies naturalistes, etc., parasitaires? Les communs se situent sur ce terrain. Il y a deux arguments que je voudrais toucher, enfin, tout à fait brièvement, parce que je vois mon temps dépasser, demi-heure. Le premier, c'est le rapport, ce qu'on appelle, on dit, le rapport entre le commun et le biopolitique. Si, dans la contemporanéité, la vie a été mise au travail, a été mis au travail dans l'organisation capitalistique du travail, c'est évident que la contradiction entre la dimension commune de la vie et les formes de vie et la forme privée dans laquelle la vie a été mise au travail constitue un terrain d'analyse et peut-être des constitutions programmatiques de lutte. Autant plus que les structures fondamentales du pouvoir capitaliste, telles qu'ils sont venues se configurer et fixer dans la globalisation, tendent à montrer une sorte de communisme du capital, en dimension commune du gouvernement financier, surtout dans l'exploitation d'une force de travail, elle aussi rendue commune. Le deuxième élément sur lequel je voudrais vous demander l'attention, c'est le fait que je crois que dans toute la tradition, certaines fois tragique, souvent horrible, du mouvement ouvrier, de la lutte ouvrière, et dans toutes les techniques qui, pour construire une vie sociale commune, ont été inventées, souvent avec des résultats vraiment terribles, comme par exemple la planification soviétique, quand même dedans, il y avait un désir du commun. Peut-être que revenir même à creuser ce désir du commun, peut-être qu'il sera utile pour nous. Merci.